un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la sainteté de la voix. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Que le Dieu de gloire vous bénisse richement, l'équipe de louanges, que le ciel vous soit favorable. Nous sommes très fiers du travail que vous faites. Nous savons qu'hier vous étiez fatigué, mais voilà qu'aujourd'hui vous êtes encore là pour l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu use de sa bonté, qu'il use de sa miséricorde envers vous, et qu'il accomplisse la promesse qui déclare que vous me servirez et je vous bénirai. Qu'il vous bénisse richement. Je vais vous inviter à tourner les pages de vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 15. Nous allons lire du verset 17 au verset 21. Luc chapitre 15, 17 à 21. La Bible dit ceci. Étant rentré en lui-même ici, c'est le Fils prodige. Donc, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Seigneur, je vais te dire merci pour ce temps et j'aimerais que toi tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Ce matin, Dieu me met à cœur de parler avec vous de la repentance. Et le sujet central que nous allons aborder va être ce que nous devons savoir au sujet de la repentance. Ce que nous devons savoir au sujet de la repentance. Et aujourd'hui, le premier point que j'aborde, c'est que la repentance est une décision. D'abord, est-ce que la repentance, c'est un sujet important? Est-ce que ça relève de ce que le maître a enseigné? Lorsque vous ouvrez la Bible, dans Matthieu chapitre 3, vous regardez la prédication de Jean-Baptiste, la Bible est claire. Donc, le premier message et le message fondamental que Jean-Baptiste communiquait aux enfants d'Israël qui venaient à lui dans le désert de Judée pour l'écouter, c'était le message de la repentance. Quand vous passez dans Matthieu chapitre 4, la toute première prédication de Jésus-Christ, il revient sur ce même thème. Il dit aux foules qui l'écoutaient, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Encore une fois, Jésus parle de la repentance. Encore une fois, il met la repentance en relation avec la vie éternelle, avec le royaume de Dieu. Quand vous feuilletez les pages de votre Bible, le jour de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, lorsque Pierre prend la parole pour la première fois et qu'il s'adresse à la foule, Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous feuilletez encore les pages de vos Bibles, vous trouverez que l'apôtre Paul lui-même le dit que partout j'ai enseigné la repentance et la conversion à Dieu. Ce qui nous prouve que dans la foi chrétienne, La repentance, c'est comme la porte qui nous ouvre. C'est comme la porte qui nous permet même d'accéder à l'univers de la foi. C'est que sans repentance, vous ne pouvez même pas avoir la foi. Sans repentance, vous ne pouvez pas bâtir une relation individuelle, profonde avec votre Dieu. Et s'il y a un message que nous devons répéter chaque dimanche, surtout dans le siècle présent et par le temps qui court, c'est le message de repentance. Nous venons de lire un texte que nous connaissons tous, qui nous reprend l'histoire du fils prodige. Ce jeune homme a pris une première décision. C'était la décision de demander sa part d'héritage à son père. Et lorsqu'il a eu sa part d'héritage, la Bible nous dit que ce jeune homme a quitté la maison, il a fugué, il est parti. Mais là où il est parti, après avoir tout dépensé, il a commencé à souffrir. Mais ce jeune homme a fait quelque chose de fantastique, quelque chose de très intéressant, qui doit être une grande leçon pour nous aujourd'hui. La Bible dit qu'il est revenu, il est rentré en lui-même, et il a dit, il y a beaucoup d'ouvriers chez mon père qui mangent bien. Comment se fait-il que moi, je vais être en train de souffrir ici? Il a pris la décision de rentrer chez son père. Je vous parle aujourd'hui de la repentance. La repentance, c'est un sentiment profond de l'âme. Donc, la repentance commence par l'intérieur. Sentiment profond de l'âme qui pose un jugement sur elle-même. La repentance n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me juger. D'abord, vous-même, vous prenez conscience. C'est ce que j'appellerais une prise de conscience. C'est le point de départ. D'ailleurs, c'est la première vérité que je vais regarder avec vous. Que la vraie repentance commence par une prise de conscience, une introspection de soi. Lorsque l'âme pose le jugement sur elle-même, lorsque l'âme pose une réflexion sur elle-même, certainement elle va découvrir les choses qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas. Et après, l'âme va prendre la décision de changer. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, je l'appelle la repentance est une décision. L'âme va prendre la décision de changer. De changer quoi? De changer bien des choses. De changer sa voie si elle est engagée sur une mauvaise voie. De changer ses opinions si elle a développé de mauvaises opinions. De changer ses habitudes si elle a développé de mauvaises habitudes. De changer son style de vie si elle a développé un mauvais style de vie. Bref, repentance, surtout lorsqu'on rentre à la racine grecque, c'est changement, métanoïa, changement. Mais changement de quoi? Changement de beaucoup de choses. De cette définition, comme je viens de vous le dire, je dégage deux vérités que je vais regarder avec vous aujourd'hui et avec beaucoup d'exemples. La première vérité que nous devons nous tous noter, c'est que l'introspection est le point de départ d'une repentance sincère. Regardez ce que le verset 17 nous dit. Que ce jeune homme est rentré en lui-même. C'est-à-dire, il a commencé à faire l'introspection, à passer sa vie en revue. Il dit, mais écoute là, j'étais bien chez mon père. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à réclamer la part de mon héritage et à quitter la maison? Même lorsque j'ai quitté la maison, mais qu'est-ce qui m'a poussé à dilapider tout ce que j'ai apporté? Il a commencé à se juger. Frères et sœurs, il est impossible que quelqu'un se repente s'il ne commence pas par prendre conscience de ce qu'il fait, s'il ne décide pas par prendre conscience de ce qu'il vit. La prise de conscience, mon frère, ma sœur, c'est le point de départ pour une repentance sincère. C'est le point de départ pour que la repentance puisse être rendue possible. Nous sommes des hommes. Dieu nous a créés avec l'intelligence. Nous ne sommes pas seulement capables de réfléchir sur les erreurs des autres ou sur ce que le monde nous présente. Mais nous sommes aussi capables de poser, de faire une pause dans notre marche avec Dieu et de rentrer à nous-mêmes pour interroger nos voies, pour interroger nos habitudes. C'est salutaire, frère. La déviation dans la foi commence par calciner sa conscience. Ce que Paul appelle cautériser sa conscience. Lorsque la conscience est brûlée, la conscience devient insensible. C'est que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Quand il vous arrive, par exemple, de commettre quelque chose de mauvais, mais que votre conscience ne vous parle pas, c'est très dangereux, frère. À l'école primaire, on nous disait que la conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit que cet acte est bon ou mauvais. Oui, vous pouvez commettre quelque chose de mauvais. Mais ce qui est important, est-ce que votre conscience vous parle ou votre conscience ne vous parle pas? Vous avez par exemple volé, vous avez par exemple triché, injurié, vous avez par exemple trompé, vous avez par exemple été violent. Et après, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Si vous ressentez dans votre cœur une voix qui vous dit que non, frère, ce que tu as fait là est mauvais. C'est que tu es encore en vie. Mais si tu n'entends rien, tu ne sens rien, tu es déjà mort. Amen, peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. Puisque en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit, la Bible dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous convaincre, un, du péché, deux, du jugement, trois, de la justice. Si le Saint-Esprit est encore en vous, je le souligne bien, que vous le vouliez ou pas, il va vous dire, Diane, tu es en train de mentir. Diane, tu es en train de mentir. Tu peux bouder, mais l'essentiel c'est que tu as entendu la voix. Là, c'est une preuve que tu es encore en vie. Mais si tu ne sens rien, donc tu as injurié, tu as triché, tu as volé, tu as commis l'adultère, la fornication, tu t'es enivré, et quand tu quittes de là, ta conscience est tranquille. Frère, fais attention. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui t'arrive. C'est que tu es sur le chemin de la mort. Le jeune homme, la Bible dit que le jeune homme est rentré en lui-même. Le vrai jugement, ce n'est pas le jugement qui vient de l'extérieur. Il y a des gens qui attendent pour se repentir. Ils attendent que quelqu'un vienne prophétiser. Non, ce n'est pas ça, frère. Il faut d'abord une prise de conscience. J'insiste beaucoup sur la prise de conscience. Même s'il ne vous arrive pas d'abandonner le péché, mais si vous commencez par prendre conscience que ce que j'ai fait, c'est mauvais, c'est que vous êtes sur une bonne pente. C'est très important. Le jeune homme est rentré en lui-même. Il a fait l'introspection de son cœur. Et au bout de cette introspection, il a réalisé que non, je me suis mal comporté. Ça, c'est la première vérité. L'introspection est le point de départ de toute repentance sincère. Soyez à l'écoute de ce que le Saint-Esprit vous dit. Même présentement, pendant que je vous parle là, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Si vous êtes vivant, le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit vous montre dans votre cœur que oui, c'est vrai. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous avez fait. C'est que ça, c'est l'amour de Dieu qui vous indique ce que vous avez fait de mal pour vous pousser à la repentance et avoir la vie. Ma prière à Dieu, c'est que vous puissiez ouvrir vos oreilles et être attentif à ce que le Saint-Esprit vous dit. Église, ne vous contentez pas d'aller suivre les foules. Ne vous contentez pas d'aller suivre la belle musique, de sauter, de tomber. Ça ne vous apporte absolument rien. Contentez-vous plutôt de regarder jour après jour l'état de votre cœur. Parce que c'est l'état de notre cœur qui nous connecte avec le ciel. Ma prière à Dieu est que ce jour-là, lorsque nous parlons, nous marcherons dans les gloires du ciel, que nous puissions nous trouver ensemble. J'aimerais que l'arche de Dieu soit réellement une porte du ciel. Et que quiconque passe par ici se prépare réellement pour arriver au ciel. Et nous ne pouvons pas arriver au ciel sans commencer par la repentance. Et la repentance commence par la prise de conscience, l'introspection. Ce jeune homme a pris conscience. Deuxième chose, ou deuxième vérité, la repentance est une décision. Une décision de changer quelque chose dans sa vie. Retournons à ce jeune homme. Le jeune homme était dans une porcherie. C'est là que le Saint-Esprit a touché son esprit pour qu'il commence à poser une réflexion sur sa vie. Pendant qu'il réfléchit, il s'est dit, mais chez mon père, il y a même des ouvriers, mais qui mangent bien. Moi ici, je suis au milieu des porcs. Je suis en train de mourir de faim. Non. Je me lèverai. Ça, c'est la décision qu'il prend. Je retournerai vers mon père. Deuxième décision. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je vais attirer votre attention sur une chose. Quand j'ai dit que la repentance est une décision, je ne veux pas dire que la repentance se limite à une décision mentale. Non. C'est une décision qui doit aller jusqu'à l'exécution. Parce qu'il y a bien des gens qui prennent de bonnes décisions. Ils disent que l'alcool c'est mauvais. Dieu, je ne veux plus boire l'alcool. Je refuse. Deux jours après, il est encore en train de prendre de l'alcool. Il avait pris une décision, mais il a pris la décision au niveau mental. Mais pour que la décision de la repentance puisse être complète, cette décision doit être exécutée. Regardez ce que ce gaillard a fait. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, au point que je ne suis même plus digne d'être regardé comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs qui sont ici. Et après cette conception, puisque la première décision est prise au niveau de l'esprit, au niveau mental, dès qu'il a fini cette conceptualisation de sa décision, la Bible nous dit que le jeune homme est passé à l'action. Il s'est levé. Première décision exécutée. Il a marché vers la maison de son père. Deuxième décision exécutée. Je l'ai dit il y a quelques semaines. Lorsque son père l'a vu, il a couru, il l'a embrassé. Ce jeune homme avait toutes les raisons du monde pour dire, comme il est venu lui-même m'embrasser, alors je laisse faire. Non. Il a crié, il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Au point que, c'est-à-dire quoi? Il a exécuté ce qu'il avait conçu avant de se tenir debout, quand il était encore dans la porcherie. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, frère. Prendre la décision, c'est une chose. Mais l'exécuter, ça n'est une autre. Et dans le cas de la repentance, c'est une décision. Il faut prendre la décision et l'exécuter pour que votre acte puisse être complet. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque ce jeune homme a exécuté sa décision, la Bible dit que le cœur de son père a été mis de compassion. Son père lui a pardonné. La repentance, c'est une décision, frères et sœurs. Une décision que vous devez prendre. Sans avoir pris cette décision, il n'y aura jamais de repentance. La repentance, ce n'est pas une sensation. Alléluia, alléluia, j'ai quitté le péché. Non, ce n'est pas ça. C'est une décision éclairée. Vous êtes vraiment en âme et conscience. Vous dites, je suis un homme marié. Comment se fait-il que je puisse continuer à marcher dans l'infidélité? Même si cette femme est jolie comme une nymphe, aujourd'hui, je mets la croix. C'est-à-dire quoi? Tu as pris la décision. Ça va être une décision difficile. On a vu des prostituées prendre des décisions. Mais elle savait que sa vie dépend de la prostitution. Elle sait que c'est là que je gagne de l'argent pour payer mon loyer, même nourrir mes enfants. Mais quand le message de l'évangile touche son cœur, elle dit, non, je marchais dans le péché, je prends la décision de quitter. Elle quitte sans savoir même comment elle va nourrir ses enfants. Et le Dieu qui n'abandonne pas, il va pourvoir, car la Bible dit qu'il est le pourvoyeur. On a vu des femmes abandonner le deuxième bureau, comprendre que ce n'était pas mon mariage ça. Moi, je suis venu juste mettre des troubles dans le foyer de quelqu'un d'autre. Je me retire. Même si l'homme était le bailleur des fonds, sans cette décision, frère, vous ne pouvez pas faire affaire avec Jésus-Christ. La décision de faire quoi? C'est la décision de changer. Vous pouvez même souligner le mot changer. De changer quoi? Ça peut être d'abord de changer des décisions. Je commence par le cas du fils prodige et je vais vous donner d'autres exemples. Ce fils avait pris une décision. C'était la décision d'aller faire la vie avec son héritage. Il est allé, il a fait la vie. Quand il s'est repenti, il a changé la première décision qui le mettait sur le chemin de la mort, qui était la décision d'aller faire la vie, et il a pris une autre décision. Quelle est cette autre décision? Je vais retourner chez mon père. Quand il a exécuté cette décision, alors il s'est repenti. Frères, sœurs, combien de décisions vous avez prises dans la vie qui ne sont pas bonnes? Vous avez peut-être pris la décision, moi, je ne parlerai jamais à tel frère. Je ne parlerai jamais à telle sœur. Arrête-toi un peu une minute. Pose un jugement sur toi-même. Et dis-moi, est-ce que cette décision est bonne ou mauvaise aux yeux de Dieu? Pas à vos yeux. Nous vivons au milieu d'une génération où le bien est devenu relatif. Le mal est devenu relatif. Ce qui est bien, c'est ce qui est bien pour moi. Pour moi, c'est bien. Je ne vais pas lui parler. Oui, c'est bon, vous avez raison. Mais pour Dieu, puisque nous sommes des enfants de Dieu, amen, Église. Ce que nous laissons agir, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va nous donner la vie éternelle. Ce n'est pas nous qui allons nous donner la vie éternelle. Et lorsque Dieu va nous donner la vie éternelle, il va regarder si nous avons marché conformément à ce qu'il veut ou si nous avons marché contrairement à ce qu'il veut. Eh bien, si vous vous repentez, ce n'est pas dire en votre cœur, c'est fini, j'ai laissé faire, j'ai pardonné, mais je ne lui dirai plus bonjour pareil. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai changé de décision. La première décision était de ne pas lui dire bonjour, mais la deuxième décision que je prends maintenant vient corriger la première qui était mauvaise. J'ai dit, je lui dirai désormais bonjour. Là, tu as accompli ton acte de repentance, ton acte de changement, un acte qui est salutaire pour toi d'abord. J'insiste bien. Parfois les chrétiens se trompent. Ils s'imaginent que ce qu'ils pensent dans leur tête, c'est ce que Dieu pense absolument. Non. Dieu pense ce qui est dans sa parole. Amen. Et si vous voulez penser comme Dieu, vous vous superposez sur sa parole. Vous voyez, lorsqu'on était à l'école primaire, pour faire le dessin, on trempait parfois le papier dans le pétrole, il devient clair et vous calquez le dessin qui est en bas. Oui, vous vous superposez sur la parole et vous vous calquez. Si vous apportez un autre mode de pensée, et que ce mode de pensée-là est contraire au mode de pensée de Dieu, rassurez-vous que Dieu n'est pas dans votre affaire. Et vous devez vous repentir. C'est très important. La repentance est une décision. Une décision de faire quoi? De changer même ses propres voies. J'ai un exemple à vous donner. Lorsque nous descendons dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, nous apprenons que l'apôtre Paul a fait le ministère dans la ville d'Éphèse. Et au cours de ce ministère, plusieurs âmes ont été gagnées à Jésus-Christ. Mais parmi ces âmes qui étaient gagnées à Christ, certaines personnes étaient engagées sur la voie de la magie qui devrait les conduire directement à l'enfer. Mais lorsque ces gens ont cru et ces gens se sont repentis, ils ont alors décidé de quitter la voie de la magie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté tous les livres dont ils se servaient pour des initiations de la magie devant les apôtres et on les a brûlés. Vous voyez que quand quelqu'un est dans la magie, il est engagé sur une voie. Lorsque la parole de Dieu vient et l'aide à poser une introspection dans son cœur, il réalise avec l'aide du Saint-Esprit que j'étais engagé sur la voie de l'enfer. Exactement comme nos amis d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il doit faire pour accomplir son acte de repentance? C'est comme lorsque vous vous rendez par exemple au métro Clémazie. Vous sortez ici, vous prenez la rue Jarry et vous tournez à droite, vous allez vers l'est. Mais dans votre tête, vous vous dites, je vais au métro Clémazie. Lorsque vous réalisez que vous êtes arrivé à Pineuf, vous pouvez faire deux choses, selon que vous êtes intelligent ou selon que vous n'êtes pas intelligent. Si vous êtes intelligent, vous allez vous arrêter. Vous allez faire demi-tour. C'est ça la repentance, changement de voie. Je fais demi-tour, je prends la voie de service, je retourne. Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous allez poursuivre à l'est en vous disant que j'arriverai quand même au métro Crémazie, même si ça me prend du temps, et vous allez vous retrouver à Sherbrooke, vous allez vous retrouver à Trois-Rivières jusqu'à l'océan. Vous n'arriverez jamais au métro Crémazie. C'est ce que certaines personnes sont en train de faire. La personne est engagée sur une mauvaise voie, la voie de la magie. La Bible vient lui parler, il accepte la parole de Dieu, mais il continue à marcher sur la voie de la magie. Non, vous n'arriverez jamais au salut, frère. Et ce qui est grave encore, nous voyons que dans ce texte, ces gens, pour marquer leur repentance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné la voie de la magie et ils ont même brûlé tous les livres qu'ils utilisaient pour faire ces opérations. Peut-être que vous, vous étiez aussi magicien. Peut-être que le mot magicien vous crée des troubles. Peut-être que vous étiez féticheur. Mais lorsque vous avez quitté le fétiche, vous dites oui, moi je crois, mais vous gardez encore les cornes des gazettes chez vous à la maison. Vous gardez le boucan que le grand-père vous avait donné comme protection. Vous gardez des amulettes autour des cou. Et vous vous dites que non, ça me protège, ça va faire quelque chose. Non, quand il y a repentance, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse de toutes ces choses-là, parce que ces choses-là sont un commerce avec les démons. Si le démon arrive, il va dire, il y a quelque chose qui m'attire chez lui, c'est ma corne de la gazette qui est là. À cause de ça, moi je ne pars pas. Et c'est ainsi que quelqu'un peut tout faire, mais il n'y a rien qui marche. La repentance, c'est le véritable changement de voie. On était engagé sur une mauvaise voie, on quitte la voie. Mais il y a un phénomène bizarre aujourd'hui. Un phénomène qui m'inquiète à un plus haut point. Ce phénomène consiste à voir certaines personnes qui sont engagées sur la voie du salut, mais qui décident d'associer la magie au ministère chrétien, qui décident d'aller faire le commerce avec la franc-maçon. Je suis pasteur, mais j'associe la franc-maçon à mon ministère. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? C'est comme si j'ai pris la sorcellerie, j'ai associé à Dieu et j'ai dit à Dieu, ce n'est pas grave. Nous sommes à l'époque de la mondialisation, vous pouvez cohabiter avec la sorcellerie. C'est-à-dire, vous demandez à la lumière, ce n'est pas grave, lumière. Moi, je vous adopte, vous deux. Vous pouvez rester ensemble, et la lumière et le ténèbre. Les choses ne marchent pas comme ça, frère. Vous voyez, Paul dit aux Athéniens que Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes un ministre de Dieu. Si il vous est arrivé de vous associer avec la rose croix, de vous associer avec le vaudou, de vous associer avec la magie, peu importe ce qu'on vous a dit pour vous persuader, c'est que vous avez quitté la voie du salut et vous vous êtes placé sur la voie de l'enfer. Et vous devez vous repentir si vous voulez un jour arriver à destination. Sinon, c'est clair, c'est bien clair que vous n'arriverez jamais à destination, vous ne foulerez jamais vos pieds aux portes du paradis, jamais de la vie. Et ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez vous repentir, c'est-à-dire vous débarrasser de toutes les affaires des francs-maçons, vous débarrasser de toutes les affaires des vaudous, vous débarrasser de toutes les affaires des rose-croix, des magies, et faire l'œuvre de Dieu comme la Bible l'enseigne. Et vous avez l'exemple dans Actes des Apôtres que nous venons de lire. Quand ces gens sont venus au Seigneur, ils se sont débarrassés. Comment est-ce que les féticheurs, les magiciens qui viennent au Seigneur se débarrassent de leur magie? Mais vous qui êtes dans le Seigneur, vous allez chercher la magie pour impressionner les hommes. Écoutez frère, écoutez, peut-être que vous êtes allé chercher de la magie juste pour impressionner les hommes. Avoir une grande église, passer dans des grandes chaînes de télévision, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous voulez qu'on vous donne des milliards? Vous allez gagner des milliards, frère. Vous voulez que le monde entier vous connaisse? Le monde entier va vous connaître, frère. Mais sachez une chose, qu'un jour, vous allez cesser d'exister, vous allez mourir. Et en ce moment-là, vous ferez face à celui qui est le juste juge. Amen. À celui devant qui le secret du cœur ne sont pas cachés. Et quand il va vous dévoiler votre commerce avec les démons, frère, vous allez passer l'éternité, pas un an. Vous allez passer l'éternité dans la géhenne. Et vous aurez perdu même tout votre temps de tenir la Bible en main et de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Vous pouvez dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens qui vont entendre cela, que Jésus est Seigneur, et qui vont être sauvés. Et vous-même, vous le savez. Vous savez ce que votre cœur veut. Si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de quitter tout simplement l'église, d'aller devenir un patriarche de la franc-maçon, un patriarche, un prêtre vaudou, et d'opérer en toute liberté au lieu d'opérer par hypocrisie. Changement de voie, frère. C'est-à-dire se repentir, c'est prendre la décision de changer la voie. Quand on est engagé sur une mauvaise voie, on doit la quitter pour reprendre la voie du salut, la voie qui mène à la vie éternelle. Se repentir aussi, c'est changer de mode de vie. Si vous lisez dans Luc chapitre 2 et chapitre 3, à partir du verset 10, la Bible vous dit que la foule est venue l'interroger, c'est-à-dire il interrogeait Jean-Baptiste et lui disait, que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Il y a trois classes de gens qui se présentent ici devant le ministre de Dieu. Nous avons écouté votre message de repentance, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous devons faire en pratique? De façon concrète, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit que vous avez deux manteaux, oui. Et vous les gardez tous parce que vous êtes égoïste. Vous repentir pour vous, c'est quitter la voie de l'égoïsme, le mode de vie de l'égoïsme dans lequel vous vivez, pour adopter un autre mode de vie qui est le mode de vie de l'altruisme, du partage. Et de façon concrète, sur tes deux manteaux, prends un manteau, donne à celui qui n'en a pas. Vous savez qu'aujourd'hui l'Église a perdu tout l'amour. La compassion. Vous savez pourquoi Jésus-Christ multipliait les pains? La Bible dit tout simplement que quand il a regardé la foule, il a eu compassion de la foule. Jésus n'avait pas multiplié les pains pour se faire plaisir. Mais en regardant la foule, il a eu compassion. Il a vu qu'ils étaient semblables à des brebis sans berger. Il dit, mais est-ce qu'on peut donner à manger à ces gens? Si on les renvoie tels qu'ils sont maintenant, très fatigués, peut-être que certains pourront mourir en cours de route. Ce que Dieu attend de l'Église en tant que des représentants de Dieu sur la terre, c'est que nous ayons un cœur qui est semblable au cœur de Dieu. Le cœur plein de compassion. Combien sont encore dans l'égoïsme aujourd'hui? Combien nous jetons de la nourriture? La nourriture, mais pendant qu'on la jette là, à côté, il y a des milliers qui sont en train de mourir affamés. Frères, sœurs, nous devons nous réveiller en tant qu'Église. J'ai beaucoup béni le pasteur Claude Houde et le ministère qu'il fait. Vous savez comment ils ont pu impacter le Québec? C'est parce que depuis le début du ministère, ils ont ouvert le cœur pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Nous tous, nous pouvons le faire. Lorsqu'il y a eu Vegla en 98, ils ont ouvert les portes de l'Église. Ils ont logé les gens qui étaient sans abri. Ça, c'est le mandat de l'Église. Même si les païens ne peuvent pas le faire, mais nous, nous pouvons le faire. Combien de gens doivent se repentir aujourd'hui, frère? Combien vous est-il arrivé? Vous savez, nous avons même dans ce quartier, même autour de nous, même dans la ville de Montréal ici, des gens qui souffrent réellement, qui manquent même un croissant. Quel chrétien peut se dire, aujourd'hui je m'élève, je dépense même ne fût-ce que 20 dollars, je vais payer 20 croissants, je vais seulement donner sans savoir à qui je donne, sans même me demander s'il va venir à mon église ou pas, faire le bien. Jean-Baptiste leur dit, tu as deux manteaux, prends un, donne. Tu as de quoi manger, partage avec celui qui n'en a pas. C'est ça la repentance pour toi. Peut-être que toi tu attends la repentance, c'est quoi? Oh non, 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 moi je n'ai jamais trompé ma femme, je ne peux pas me repentir. Non, 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 moi je ne bois pas l'alcool, je ne peux pas me repentir. Non, mais peut-être que tu n'as pas de la compassion envers celui qui est à côté de toi. Or, l'Évangile nous garde dans le cœur de la compassion, frères et sœurs bien-aimés. Et au même moment, il y a les publicains qui arrivent. Dites, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Jean-Baptiste ne leur a pas dit que vous, vous devez aussi partager des tuniques. Ils avaient des tuniques. Mais il a touché ce qui était devenu leur habitude de vie, leur mode de vie. J'ai dit ici que la repentance, c'est le changement du mode de vie, le style de vie. Ce que vous êtes habitué à faire chaque jour, ce qui vous rapporte même de l'argent, ce qui fait que vous soyez regardé comme quelqu'un dans la société. Mais si ce style de vie est contraire à l'enseignement biblique, vous devez le changer. Ces gens vivent dans la fraude. C'est-à-dire parce qu'ils sont publicains, lorsque quelqu'un venait payer la taxe, au lieu de lui exiger 10 dollars, ils exigeaient 15 ou 20. Le 10, on met dans la caisse de l'État, le surplus dans la poche. Ce qui fait que ces gens, vous les trouverez toujours très riches, les fiscalistes, les financiers, surtout dans les pays du tiers-monde, ils savent comment travailler. Il y en a qui giraient ailleurs que moi, je ne dois travailler qu'à l'inspection des finances. Pourquoi l'inspection des finances? C'est parce qu'il sait que quand il va aller pour pouvoir ramasser les recettes de l'État, eh bien, il va prendre une part. Et Jean-Baptiste leur dit que non, non, vous, n'exigez pas plus que ce qui vous est permis. S'il vous est permis de demander 10, demandez 10, arrêtez-vous là. Donc, la repentance pour eux, c'est de changer ce mode de vie dans lequel ils se plaisaient. Et quand le troisième groupe vient voir, ce sont des soldats, disent que, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être qu'ils s'imaginaient. Et Jean-Baptiste allait leur dire, vous aussi, donnez une tunique. Non, non, laissez l'histoire des tuniques à côté. Ce qui est important sur vous, vous ne commettez pas d'extorsion. C'est-à-dire, ne volez pas. Vous allez trouver quelqu'un avec son sac encore déroulé. Dépose le sac, tourne les dos, sinon je vais te tirer sur toi. Non, c'est du vol. Ne volez pas, contentez-vous de votre sorte. Mais c'est un peu. Notre salaire est petit, non? Contentez-vous de ça. C'est ça la repentance. Donc, chaque personne a un secteur dans lequel il doit se repentir. Et même la repentance, c'est le mode de vie de tous les jours ici. Vous allez vous repentir aujourd'hui avec les tuniques, demain il y a quelque chose d'autre. Parce que nous sommes appelés à marcher de perfection en perfection. Chaque fois que nous éliminons un étage, il y a un nouvel étage qui se présente devant de nous et nous sommes en train de l'éliminer. C'est ainsi que nous allons devenir de plus en plus propre devant la face de Dieu. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le sentiment profond que l'âme pose sur elle-même, c'est-à-dire l'introspection, et l'âme décide de prendre une décision d'abandonner les mauvaises habitudes. J'ai peut-être une mauvaise habitude de boire de l'alcool. Oh non, je suis un enfant de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Si même les policiers sont capables de vous arrêter parce que vous êtes en état d'ébriété, et vous pensez que la police du ciel va vous acclamer quand vous êtes en train de tuer, etc. Ça ne peut pas marcher. Vous savez, frère, vous savez, parfois, je n'aime pas beaucoup revenir sur ça. J'aime plutôt que le Saint-Esprit vous fasse comprendre que Paul dit ceci. Paul dit que tout ce qui était pour moi, comme quoi, comme de la gain, je le regarde aujourd'hui, et comme du gain, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance du Fils de l'homme. Quand vous accédez à une connaissance élevée, il y a certaines choses à cause du royaume que vous allez saboter, abandonner. Ce n'est pas compatible avec le service chrétien. Il y a bien des choses qu'on peut se dire, mais j'ai fixé votre attention sur la repentance au regard de ce qui se vit aujourd'hui dans le paysage spirituel. J'ouvre vos yeux, soyez attentifs, regardez autour de vous. Frères, sœurs, réveillez-vous et dites-vous, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a appelé parce qu'il me donne la vie et je dois me comporter réellement comme un enfant du royaume. Et prenez la décision. Tout commence par des décisions, même des petites décisions. Prenez la décision et Dieu va vous aider à compléter les autres. La repentance est une décision. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. J'aimerais vous encourager ce matin à passer toute votre vie en revue et à vous dire quelles décisions vous pouvez prendre. Même sur la chose la plus simple de votre vie, vous prenez une décision qui, à partir d'aujourd'hui, je le change à cause du royaume. Et nous allons poursuivre parce que le ciel est à nous. Élevons alors nos voix et prions Dieu selon la décision. Je vous encourage fortement à prendre une décision ce matin. Et je suis sûr que le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous parler. Je suis sûr que le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous révéler ce que vous devez faire à cause de ton souci d'entrer dans le royaume dans les tout prochains jours. Alors, élevons nos voix, nous prions et nous terminons cette réunion. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, notre roi, notre forteresse. Seigneur, nous nous sommes présentés au devant de toi et nous reconnaissons que tu es le Dieu qui nous aime. Yahweh, toi, tu nous as parlé de la repentance, oh Père. Le premier message que Jean-Baptiste a donné, le premier message que le Père a donné, le premier message que Pierre donne le jour de Pentecôte. Seigneur, nous voulons changer parce que nous désirons entrer dans le règne de Dieu. Fais grâce à mon frère de faire une véritable introspection de sa vie. Fais grâce à ma sœur de faire une véritable introspection de sa vie, de réaliser quelle décision il peut prendre afin de changer sa vie. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui est venue au devant de ta face. Bénis la parole que nous avons écoutée, oh Dieu. S'il en est un qui est arrivé si malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Rends-nous des hommes forts. Nous voulons, Seigneur, que cette église soit réellement la porte qui donne au paradis. Et que tous ceux qui entrent en ces lieux, oh Dieu, se préparent réellement à voir ta face lorsque tu vas apparaître sur la nuée. Merci pour la modération. Merci pour le protocole. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.